Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, où l'agriculture racontée par ceux qui la font. Nous nous rendons cette fois-ci à la confluence du Lain et du Dourdou, au hameau d'Armérolz, pour y rencontrer Sandra, Xavier et Théo, qui élèvent agneaux et volailles. Bonjour, alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors moi, c'est Sandra Brault, je suis la femme de Xavier Brault.
Et Xavier Brault,
le père de Théo Brault.
Et Théo Brault, le fils de Sandra et Xavier Brault.
Très bien, on a tout le monde.
On est sur la ferme des Armérolz, sur la commune de Saint-Isère.
Qu'est-ce que vous produisez sur votre ferme?
Aujourd'hui, on produit de la volaille en plein air. On a un petit cheptel de 150 poules pondeuses, en plein air aussi, et des brebis viande.
Et sur votre ferme, donc 150 poules pondeuses, combien de volailles à peu près?
On a 6 cabanes de à peu près 500 places. Et en fait, on a un abattage tous les mois, donc ça fait une cabane par mois, et chaque cabane fait 2 bancs de barres en fait.
Okay.
Donc on a un potentiel de 6 000 volailles en tout par an. Quoi. C'est entre 6 et 7 000 volailles par an.
Et des brebis, vous en avez combien?
180.
Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette exploitation-là? Pourquoi les volailles?
Du coup, on a arrêté les brebis, les agneaux à l'engraissement. On a augmenté un petit peu pour garder le plus d'autonomie sur l'exploitation, les brebis laitières. Puis voilà, il s'est passé 10 ans à peu près. Et le cumul de travail à l'extérieur, de l'exploitation, Sandra qui était toute seule sur l'exploitation avec les enfants et tout, ben, il y a eu une saturation à un moment donné. Donc du coup, on aimait bien la volaille, on avait commencé à en faire pour nous, on a enfilé un peu à la famille. Et puis on s'est dit, mais tiens, pourquoi pas, si on doit changer de fusil d'épaule, partir là-dedans. Donc on a fait notre étude, on a fait un peu voir un peu ce que ça pouvait donner. Et puis de fil en aiguille, on a rencontré des copains qui en faisaient déjà, qui nous ont aussi encouragés dans cette voie-là. Parce qu'on était parti sur volaille vente directe. Pas autre chose que ça en fait. Avec des petites cabanes de 45 mètres carrés, du parcours. Et une philosophie bio sans avoir passé le cap, voilà, certification. Ouais. Donc on utilise tout ce qui est huile essentielle, vinaigre de cidre, de l'ail, enfin...
Aujourd'hui, vous l'avez la certification?
Non.
Non, vous ne l'avez pas demandé?
Non.
Et alors, vous avez toujours été dans l'agriculture, tous les deux?
Non. Moi, non. J'étais monitrice d'équitation. J'ai pas trop vécu à la campagne au départ. J'étais plutôt dans la ville, Paris, Montpellier. Et en fait, on a acheté par hasard la maison ici. Et en fait, c'est le propriétaire de l'exploitation qui est venu me voir en me disant « Tu veux pas t'installer ?» Sur le coup, j'ai fait les grands yeux, j'ai fait « Ok, alors les brebis de Roquefort, je les vois dans les champs, mais moi, j'ai jamais manipulé ces bêtes-là.
Ouais. »
Donc en fait, j'ai repris en rapide une formation sur un an, où j'ai fait des stages pas mal à droite à gauche. Après, l'avantage, c'est que j'avais quand même Xavier, qui était à l'époque technicien agricole en Novin Viande. Donc il touchait et il connaissait un petit peu la brebis quoi. Pas la brebis laitière mais la brebis. Donc du coup voilà, moi je me suis lancée là-dedans, je me suis installée toute seule.
En partant de rien quoi.
En partant de rien.
Et toi, t'as toujours...
Mon père était régisseur d'un troupeau en Camargue là-bas.
C'est quoi régisseur?
Il n'était pas propriétaire mais c'était lui le gérant de... du troupeau. Il y a eu jusqu'à 1000 brebis à l'époque là-bas. Et puis voilà, moi j'ai fini mes études dans l'Aveyron. Et puis c'est venu comme une évidence en fait de rester. En fait, je voulais pas. J'avais idée que je m'installerais un jour peut-être. Pas forcément de suite, je voulais me faire une expérience. Donc je travaillais en tant que technicien pendant 11 ans. Après j'ai fait quasiment 7 ans en tant que responsable d'un centre. Puis on a arrêté
et on
s'est installé ensemble.
Et donc pour se situer dans le temps, vous êtes installé ici quand?
Alors ça fait exactement 15 ans qu'on est installé.
15 ans.
Moi toute seule. Et là, ça fait 3 ans qu'il est installé avec moi.
Et la volaille, vous avez commencé quand?
Ça fait 3 ans.
3 ans, quand vous aviez été arrivé.
Ouais, c'est ça.
Et comment est-ce que vous vendez votre marchandise? Que ce soit les agneaux ou les volailles?
Les volailles, 100% en vente directe.
Vente directe à la ferme, sur le marché, en boutique?
À la ferme, on a le magasin de producteurs à Albi.
À lui.
Ouais, aux saveurs paysannes. On fait partie du GIE des Grands Causses et du marché paysan à Millau. Mmh. Et après, Sandra fait le marché de Régista tous les samedis matin. Et après,
et après beaucoup de livraisons. Surtout avec le Covid, là, on a fait beaucoup de livraisons. Ouais. Saint-Afrique, Vabre, porte à porte, en fait.
Et comment ils font les gens pour vous commander
Ils appellent.
Ils appellent.
Ouais.
Ils connaissent la ferme, ils trouvent le numéro.
Ouais, puis on a des flyers, donc on fait passer aussi, quand quelqu'un est intéressé et nous commande, on lui fait passer un flyer, et puis après le bouche-à-oreille fait le reste, en fait.
Il y a Facebook aussi, et un site internet.
Un site internet.
Ouais. Instagram.
D'accord.
Et il y a Instagram aussi.
Et alors, aujourd'hui, donc ça fait une quinzaine d'années que vous y êtes, ici. Est-ce que vous en vivez bien, de votre agriculture? Est-ce que vous pouvez réparer la bagnole quand elle tombe en panne assez facilement? Est-ce que vous partez en vacances?
Depuis cette année, on respire plus. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on avait ce troupeau laitier. Quand on a monté le projet de volaille, il y a eu la réforme de Roquefort qui est arrivée en même temps, en fait. Alors qu'au départ, on était parti sur volaille et lait de Roquefort. Et en fait, quand la réforme de Roquefort est arrivée, et bien en fait, nous, on a fait le calcul de l'impact de la réforme sur notre exploitation. Mmh. Et il s'est avéré qu'on était classé en super A, enfin Sandra, puisque c'était Sandra qui était exploitant. Mmh. Donc on avait une super qualité de lait, on avait...
J'avais un des meilleurs prix dans tout le rayon, €1,10
ou un peu plus. Ouais. Mmh. Et en fait,
qui était haut, parce que je ne faisais pas tout mon lait. J'étais en classe A, je n'avais pas de coliforme, je n'avais pas de tout ce qui est, donc qui nous pénalise. Voilà. Parce que avec la nouvelle réforme, ils n'ont pas réfléchi et ils ont baissé à tout le monde le prix. Quoi. Et là, moi, j'ai pris une claque. Ouais. Et donc, on a fait faire le calcul donc, par les lycéens du Four-Labour, par un technicien de la chambre. Et en fait, les deux ont été d'accord. En fait, qu'on continue le lait avec le prix qu'ils nous proposaient, ou qu'on passe en viande sans parler de vente directe, que leur vend la viande dans les coopératives, et en fait, on gagnait pareil. Sauf qu'on n'avait pas l'astreinte de la traite tous les matins et plein d'autres choses. Quoi. Ouais. Donc du coup, en fait, même si mentalement, pour moi, ça a été un gros échec, parce que j'ai l'impression que c'était de ma faute, ce qui était faux, en fait, on a bien fait. Quoi. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, au début, on était à 90% en tout ce qui était label rouge et le reste 10% en vente directe. Et maintenant, c'est le contraire, en fait. Bah plutôt le lait, on vous appelle juste quand il y a un problème. Tandis qu'un client, s'il a une pièce qu'il ne va pas aimer comme c'est découpé, il va vous le dire, mais il va vous le dire aussi quand c'est bon ou quand ça va bien. Et ça, avant, je ne l'avais pas, moi. Moi, j'étais vraiment très enfermée dans les brebis. Et,
Puis complètement dépendante d'une entité qui renvoie pas grand chose en fait.
C'est ça. Ouais. J'avais pas la main sur quoi que ce soit. Quoi. Même si j'étais pas d'accord, c'était comme ça, c'était pas autrement.
Et donc, les agneaux, c'est vous qui les transformez ou vous le faites faire?
Non, on a commencé au début, quand on a fait l'atelier de volaille. Mmh. Après, on a réfléchi à faire la demande d'agrément aussi pour la découpe de l'agneau. Mmh. Et donc, on a fait une demande à la DSV et qui a été accordée. Ça va faire un an maintenant. Et du coup, donc, les agneaux partent à l'abattoir à Sainte-Afrique.
Non, début janvier.
Début janvier. Nous, on les récupère et après, on les découpe. Et l'avantage, c'est qu'on découpe ce qu'on veut, comme on veut. Le client, il veut ça et pas autrement.
D'accord.
C'est beaucoup plus facile que quand on les envoie dans un atelier de découpe. Surtout que ça peut être presque au dernier moment. Tandis qu'un atelier de découpe, il a quand même besoin d'être organisé et de savoir comment ça se découpe. Tandis que nous, même au dernier moment, le client nous dit tout entier, on met tout entier. Tout découpé, on peut faire tout découpé.
Et pour les volailles aussi, vous transformez vous-même?
Oui.
D'accord.
Là, on abat
et
on découpe à la
ferme. Sur place.
Sur place.
Et est-ce que vous partez en vacances alors? Est-ce que vous avez le temps?
Nous allons partir.
Ouh.
Cette année.
On a réussi à prendre, on va dire 2 jours par an.
Ouais.
Depuis 10 ans à peu près, ou un peu plus. Et là, on va réussir à partir parce que notre fils va nous remplacer une semaine. Bon, ça fait bizarre. Hein.
Ça fait bizarre, ouais.
Mais oui, il faut tout anticiper, il faut tout préparer, il faut. Voilà, mais,
faire des valises et tout, c'est un truc.
Non,
de
ça,
fou.
C'est un détail. Ça. Même si on n'en fait pas, on part quand même. Mais c'est vrai que, c'est.
Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas arrivé.
Oh, 10 ans, ouais, minimum. Ouais.
Ah ouais, quand même. Donc Théo, tu vas remplacer tes parents pendant qu'ils s'en vont. Tu es prêt à prendre la relève alors?
Oui. T'as suivi des études agricoles ou pas?
Oui, j'ai fait un CAP en apprentissage à la Cazotte pendant 2 ans.
Ouais.
Dont une année chez un agriculteur vers Durenc, mais ça s'est pas bien passé. Mmh. Du coup, comme quand on est en apprentissage, on n'a pas le droit de couper les ponts, entre guillemets, un certain temps. Mmh. Mes parents m'ont pris 1 an en apprentissage. Et puis au final, je devais trouver quelqu'un d'autre en attendant et ça s'est pas fait. Mmh. Donc j'ai fini mon apprentissage ici. Suite à ça, j'ai fait 2 ans de BPREA à la Cazotte l'année dernière. Enfin, j'ai fini l'année dernière, en septembre. Mmh. Et là, je l'ai fait chez un apprentissage à 10 minutes d'ici, à Salel. Ça s'est super bien passé, on s'entend très bien. Et donc du coup, pour l'instant, j'ai un contrat, un CDI avec eux de 25 heures. Et depuis début mars, j'ai signé un contrat de un CDI aussi ici de 10 heures pour me complémenter.
Donc tu travailles sur 2 fermes à la fois.
Voilà.
Ouais. Ça va, ça se gère?
Oui, oui, c'est un rythme à prendre et puis voilà, après c'est...
Et donc quand tes parents, au bout d'un moment, ils vont te solliciter, t'as envie de reprendre la ferme?
Oui, après là, je me dis qu'il faut que je voie autre chose, que ça soit au niveau matériel, comme l'ensilage ou dans les cumas, comme sur d'autres exploitations qui font, pas forcément eux qui, à Salé, ils font du séchage, mais sur des exploitations qui font de l'ensilage ou même qui ont d'autres façons de travailler, c'est important de le voir avant de s'installer, parce qu'une fois qu'on est installé, on est un peu bloqué, quoi.
Ouais, on a plus le temps de...
Du coup, je me laisse le temps de voir, de laisser le projet aussi évoluer, parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Et voilà, mais après d'ici, oui, d'ici 5 ans, pourquoi pas m'installer, quoi. Donc voilà.
Et vous, Sandra Xavier, vous le conseillez de faire le métier d'agriculteur? Vous pensez que c'est un beau métier?
Si, non, non.
C'est un beau métier, après on lui conseille rien du tout. On veut que s'il veut s'installer, qu'il revienne ici, on fera en sorte de faire évoluer les choses. Après, on ne l'incite pas forcément à s'installer. Ce qu'on veut, c'est qu'il se lève le matin en ayant du plaisir à aller bosser. Donc, si ça en fait partie et qu'il décide de s'installer, la porte est ouverte.
Et la ferme génère suffisamment de bénéfices pour employer une troisième personne? Pour dégager un troisième salaire, si je puis dire?
Aujourd'hui, elle est entre... Parce que là, ça fait 3 ans, 4 ans bientôt qu'on a démarré le projet de volaille. Donc là, on est arrivé à tous nos objectifs. Et donc du coup, on commence à en sentir tous les aspects positifs et aussi bien en termes de revenus et tout ça. Après, ça se calcule, ça se gère, parce que la vente directe, il ne faut pas oublier que c'est hyper chronophage. Donc après, il faut savoir développer, alors si on est 3, ça sera plus facile, mais développer tout en se gardant du temps pour nous et pas en se laissant envahir à plus pouvoir rien gérer. Quoi. Et on n'est pas parti dans l'idée de forcément se dire ben, il faut embaucher quelqu'un à plein temps, à mi-temps ou... Ouais. Parce qu'après, on est dans un engrenage où il faut produire pour payer le salarié et puis on n'en sort jamais. Quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a, quels sont les principaux dangers à travailler dans l'agriculture, s'il y en a?
Ben, il faut être capable de bien avoir une image de son exploitation pour être capable de gérer tout ce qui est investissement, les intrants, etc. Et garder le plus d'autonomie possible et le plus possible la main sur les investissements et les décisions qu'on doit prendre et pas se laisser... envahir par, je sais pas moi, une envie de changer telle chose
ou le représentant commercial qui passe et qui sert à une machine et qui, tu te dis ah ouais quand même.
Ouais non, ça peut être intéressant, pardon.
Paysan, c'est pas que dans le champ quoi. C'est être comptable, c'est être veto, c'est technicien, c'est... il faut savoir tout faire quoi. Ouais. Et ça, je pense que ça c'est un point qu'il faut que les jeunes... les moins jeunes, s'ils veulent s'installer, et bien ça en tête, quoi. Après, voilà, c'est un métier qui est relativement très général et qui touche à tout, quoi. Vétérinaire, comptable...
Sur la vente directe, compétences.
Ouais. Ouais. Sur la vente directe, voilà, il faut travailler sur tout ce qui est publicitaire...
Ouais. Commercial...
Commercial, voilà, c'est...
Et alors, maintenant, c'est l'heure de ma grande question philosophique. 15 ans que vous êtes en agriculture, toi-même un peu plus Xavier, mais en tant que technicien. Au vu de l'évolution qu'a connue l'agriculture ces dernières années, est-ce que vous avez une idée de ce qu'elle deviendra dans les années à venir?
Enfin, sur l'agriculture en général, comment elle va évoluer, honnêtement, j'en sais rien, moi. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas et que l'argent oblige les gens... Enfin, c'est l'argent des fois un peu qui commande. et qui fait qu'il y a telle orientation qui va aller dans tel sens ou dans tel sens, et nous on ne maîtrise pas forcément tout. Après, ce qu'on peut arriver à maîtriser, c'est ce qu'on fait chez soi. Ouais. Et à partir de là, moi dans 15 ans ou 20 ans, je vois bien encore l'exploitation ici qui s'est développée, qui a continué à faire de la qualité et rester en vente directe. Pourquoi pas Théo s'installer et, une exploitation qui soit capable de nous d'être autonome en nous faisant vivre. Alors on ne demande pas 5000 euros par mois. Hein. Mais qu'on ait du temps pour nous et qu'on puisse aussi profiter de la vie, de tout ce qu'on a autour. Quoi. Ouais. I really hate to let this moment go. Touching your skin and your hair falling slow. When a goodbye kiss feels like this, don't you wanna stay here a little while? Don't you wanna hold each other tight? Don't you wanna fall asleep with me tonight? Don't you wanna stay here a little while? We can make forever feel this way. Don't you wanna stay?
On sait que tu m'amènes.
Mais là, c'est la cabane des pondeuses. Donc, on a deux cabanes plus petites, là, une de 35 mètres carrés. Et donc on a nos petites pondeuses qui mangent, qui boivent et qui font les œufs à l'intérieur. Et le matin, on ouvre la trappe, elles sortent, elles font leur vie sur leur parcours et...
D'accord. Elles n'ont pas trop abîmé le terrain encore ?
Non, ça va. Là. En fait, on a trois petits parcours et en fait, du coup, on alterne en fait. Mmh. Ça nous permet de faire des vides sanitaires.
Bonjour les poupoules. Donc, il y a combien de poules ici à peu près ?
Là, il y en a 150 à peu près.
150 ?
Ouais.
D'accord.
Là, elles sortent, donc on a un parcours en face là-bas.
Ouais. Le champ, ils peuvent aller dans le champ et tout là.
Ouais, on a fait, en fait, on a grillagé, on a fait deux trappes, trois trappes en fait.
Ouais.
Et en fonction de là où on veut qu'elles aillent, on ouvre ou on ferme les trappes. Et on alterne, ça nous permet de faire un vide sanitaire sur certains parcours et aussi de contrôler la partie parasitisme interne des volailles.
Et donc c'est que des poules rousses ?
Ouais.
C'est les meilleures pondeuses ?
Meilleures, nous elles nous conviennent bien. On a sur la même race, on a des noirs aussi.
Uh-huh.
Et là, on alterne. En général, c'est Sandra qui le gère. Et quand on change de lot tous les ans et demi à peu près,
ouais.
Elle change, soit elle prend des rousses, soit elle prend des noirs.
D'accord. Et là, en ce moment, vous avez combien d'œufs par jour, à peu près ?
Sur 150 poules, on a en ce moment, c'est la période là, ouais. on est bien, mais on a entre 130 et 140 œufs par jour.
Par jour.
Ouais.
Un petit mot pour la radio ? Elle est timide.
Ouais, elles sont timides.
Elles sont plus timides que vous. Ok.
Elles sont timides. Pas toutes, hein.
Ouais. Imagine qu'il y en a des plus bravaches.
Ouais, il y en a qui sont tout le temps en train de venir nous. Quand on ramasse les œufs, elles viennent là, elles viennent chercher les caresses.
Elles cherchent les câlins.
Elles sont rigolotes.
Alors j'imagine, tu les connais toutes tes poules ? Elles ont un prénom, tout
ouais,
ça ?
Ouais, tout en prénom. On a laissé la liste dedans parce que des fois on a des... Non, non.
Non. Et combien de temps ça vit une poule comme ça ?
Nous, on les garde un an et demi maxi.
D'accord.
C'est pas qu'après elle pondent plus, c'est qu'après on a des baisses de ponte.
Ouais.
Donc pour avoir un optimum et une rentabilité intéressante, on...
Sinon, tu sais combien de temps ça vit une poule ?
Bon, mais on a des amis qui ont plus de 10 ans.
10 ans ? Ah ouais ?
Ah oui, oui. Après, c'est pas la majorité, hein, mais...
Ouais.
J'ai des copains, ouais, qui ont des poules qui ont 8-10 ans. Après, nous, elles forcent pas beaucoup, hein. Elles font 3 œufs et...
Ouais.
Et elle se promène la journée.
Voilà, enfin, c'est la belle vie.
Ça va, c'est bon. C'est
la vie de poule, c'est pas mal, quoi.
Ah ouais, non, c'est plutôt pas mal. Ouais.
Et là, tout autour de la ferme, c'est les terrains à vous ?
C'est les terrains qu'on loue, ouais.
Que vous louez ?
Après, il y a des terrains qu'on entretient, là, comme à côté, là.
D'accord.
Les terrains qui sont proches de la maison, on essaie de les garder plutôt pour développer tout ce qui est... On le faisait déjà avant, mais on est en train d'accentuer. Là, par exemple, tout ce qui est pâture des brebis, on a une parcelle où il fait tellement chaud, là, maintenant, la journée, que la nuit, on les sort, on les met dans cette parcelle. Elles mangent au frais, elles sont bien.
D'accord.
Et le matin, entre 9 et 10 heures, là, quand ça commence un peu à cogner, qu'elles se mettent à l'ombre,
ouais.
On les rentre et elles ont leur ration, elles peuvent boire et elles sont à l'abri à l'ombre. Et,
d'accord.
Et pas en plein soleil.
Ouais, ouais.
Donc là, on les sort le soir, on les rentre le matin. Et ou sinon, on les sort le soir tard et avant la nuit, on rentre certains
lots. Ça existait, ça, avant que, en été, tu es contraint de les rentrer la plupart du temps tellement
nous, chaud. Souvent, on les rentre tout le temps.
Hein.
Ouais. On les sort tôt le matin et on les rentre quand ça commence à faire bien chaud. On l'a toujours fait, ça. Ouais. Ouais. Laisser vraiment toute la journée quand il fait vraiment très chaud.
Ouais.
À part si c'est boisé, on a un champ, là... où il y a pas mal de bois, où c'est ombragé et tout ça, où effectivement elles tiennent la journée sans problème. Ça leur passe pas de soucis.
Ouais.
Après là, par exemple ce soir, là, quand la fraîcheur va commencer à arriver, on va sortir un lot avec les agneaux.
Mmh.
Et on les met à côté de la bergerie, comme ça c'est plus facile à gérer. Et donc les brebis, les agneaux, tout le monde dort.
Allez hop, allez prendre l'air. Voilà, un peu.
Elles vont manger jusqu'à la tombée de la nuit. Ouais, ouais, on a 5 chiens de berger.
D'accord.
On a 2-3 femelles.
Que des bordeurs.
Une vieille que je la compte pas, ouais.
D'accord.
Et on a un mâle, là. Que des chiens. En fait, c'est un peu notre petite passion à côté, ça.
D'accord.
Donc le petit parc à côté de la maison, on a 4 brebis qui sont quasiment tout le temps dehors.
Mmh.
Et on s'en sert pour travailler, dresser nos chiens, les éduquer.
Okay.
Et après, avoir des chiens opérationnels pour sortir les brebis. Et...
Bonjour.
Et
combien de brebis, là, dans les tables?
Là, il y en a 130 à peu près.
130. Quasiment tout le cheptel.
Presque, ouais.
D'accord.
Ouais, il ouais, y a un petit lot de l'autre côté, là-bas.
Okay.
Là, il y a un lot en lutte qui va mettre bas au mois de début octobre. Après, il y a un lot qui va mettre bas au mois de juillet. Donc celui-là, c'est un petit lot de 50, de 60 brebis maxi. Et après, l'autre, c'est le lot où il y a les agneaux qu'on va sortir ce soir. Là.
Mmh.
Et donc là, en général, j'en profite quand elles sortent. On appaille, on leur remet la ration, on leur met tout propre.
Ouais.
Et quand elles rentrent le soir, elles ont leur petit lit, c'est nickel.
Mmh. Elles sont bien. Bonjour, vous voulez dire un mot pour la radio?
Ah, ça, c'est Patrick, ça.
Patrick?
Ouais.
Ah, c'est un bélier.
Nathan, notre second fils, lui, il adore les bestioles, là, et il leur donne des noms. Donc il y a Patrick, il y a Jean-Luc, il y a Robert et il y a Gérard. Et Patrick, lui, c'est une patte, c'est les béliers berrichons.
D'accord. Oui, c'est pas des lacones, ces brebis-là.
Non.
Quoi?
On a encore quelques lacones de l'ancien troupeau laitier.
Ouais.
Et après, on a des croisés lacones, croisés Suffolk. Donc Suffolk, c'est une race à viande.
Mmh.
Et là-dessus, nous, on y met que des béliers berrichons. Donc on a
des
4 béliers. Ouais,
okay.
C'est une race à viande aussi.
Ah.
On a 4 béliers, là. Et c'est des pattes, ils sont extraordinaires, ils sortent, on les met dehors, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, on s'en rend même pas compte. Ça
D'accord.
reste des béliers, il faut faire attention.
Ouais.
Mais ils sont vraiment super
sympas. Ils se chamaillent pas entre eux.
Mais alors, vraiment aucun souci de ce côté-là.
Et j'avais une question, oui, tu dis tu fais les mises bas en juillet et en octobre, alors que chez ceux qui font du lait, c'est plutôt février. Novembre.
Enfin, de novembre à février, ouais.
C'est parce que pour vous vendez mieux...
En fait, on n'a pas une grosse bergerie, donc tout faire mettre d'un seul coup, ça serait compliqué à gérer, et en termes de place pour les animaux, ça serait pas bon.
Ouais.
Il y a une autre raison quand même qui est principale, c'est qu'en étant en vente directe, on fait 3 mises bas. Donc une petite en été, parce qu'on a quand même fait chaud, on évite de surcharger les bergeries.
D'accord.
Et ça se passe mieux aussi pour les bisbats, les brebis et les agneaux. Et ensuite, on a une période au mois de novembre, donc c'est ce lot-là, enfin octobre. Et un lot qui met bas en mars à peu près, fin février, mars. Et donc l'intérêt, c'est qu'en fait, on étale un petit peu la production et ça nous permet d'avoir des agneaux toute l'année. Parce que là, aujourd'hui, on fait à peu près 2-3 agneaux par semaine en découpe. Et en vente directe.
Ah ouais. Et vous faites des agneaux sous la mer, c'est ça?
Ouais.
Ça dure combien de temps à peu près?
Bah, nous, en fait, on les laisse tout le temps sous la mer si on peut.
Mmh.
Quand les agneaux deviennent gros et
qu'ils
font un peu maigrir les brebis parce que du coup ils têtent beaucoup et que les brebis perdent de l'état, il arrive un moment où il faut préserver aussi les mères.
Mmh.
Donc du coup, on les laisse plus toute la journée ensemble, on les laisse que la nuit ou que la journée, et on étale les tétés en fait. Ce qui permet que la brebis, ben, elle a le temps de se reposer, les agneaux ne sont pas tout le temps en train de retirer dessus.
Ouais.
Donc elles maigrissent moins, et donc on les préserve aussi après. Quoi. Donc
D'accord.
en fait, si on peut les laisser tout le temps avec la mère, et que les mères se restent en état nickel, ben, on le laisse. Et s'il faut les sevrer progressivement, on le fait, mais ça, quand on les sèvre, les agneaux, ils ont déjà quasiment 3 mois et demi, 4 mois. Quoi.
Oui, c'est le moment de les
Donc on commence à en abattre quelques-uns et puis après c'est pas forcément à ce moment-là qu'ils ont qu'ils têtent beaucoup de lait parce que les mères ont quand même au bout de 4 mois elles commencent à baisser en lait. Donc du coup après on complémente du foin, de la paille,
la pâture.
Un peu ben là ils mangent un peu d'herbe et puis après quand c'est trop sec, on préfère leur laisser beaucoup de place en bergerie. Et ne plus les sortir, les agneaux, pas les brebis.
Ouais.
Parce que s'il n'y a pas assez d'herbe dehors, ben, ils vont se parasiter et ils vont moins bien pousser. Donc autant qu'ils soient à l'ombre avec tout ce qu'il leur faut en bergerie et qu'ils profitent correctement plutôt qu'ils souffrent dehors en pleine chaleur. En fait.
D'accord. Et vous produisez, je sais pas, de la luzerne, des céréales pour nourrir votre troupeau ou vous l'achetez ailleurs?
On fait à peu près 5 hectares, entre 5 et 7 hectares de céréales par an.
Ouais.
Donc une partie pour les poules et une partie pour les brebis. Mais on n'est pas autonome, donc et puis on n'a pas des terres à céréales non plus. Donc on ne peut pas trop. Et puis après l'objectif, ça nous permet aussi de faire une rotation, d'avoir un peu de céréales produites sur l'exploitation et de faire une rotation par rapport aux parcelles.
D'accord.
Et après l'intérêt c'est d'avoir des prairies naturelles sur certains champs qui sont vraiment très bonnes. Mmh. Et après on réimplante là petit à petit des luzernes. Mmh. Avec un intérêt c'est avoir de la matière azotée et limiter les achats extérieurs en fait. Tout ce qui est tourteau et autres. Ah. Si on peut être complètement autonome avec le fourrage qu'on produit et pas acheter de matière azotée pour faire du lait aux brebis. Mmh. Mais...
Oui, très bien.
Ah, ouais, c'est
d'être à l'autonomie, c'est peut-être plus économique aussi, j'imagine, que de l'acheter à d'autres.
Ah, ben complètement, ouais. Complètement. Ouais. Là, aujourd'hui, nous, à l'époque, on a repris, quand Sandra s'est installée, on a repris l'exploitation, elle avait 19 hectares, presque 20 hectares, on va dire. Mm-hmm. Et après, on a eu l'opportunité de relouer une exploitation à vol d'oiseau à 2 km, là, et où il y a à peu près autant d'hectares.
D'accord.
Et l'idée, c'était justement ça, c'était d'arrêter, parce que la sécheresse est liée malgré tout, et d'arrêter d'acheter du foin ou de la paille et des céréales tous les ans, et de retrouver une autonomie, parce que sinon, après, si on doit acheter même qu'un quart de l'exploitation, de ce qu'on a besoin, ça peut mettre tout simplement en péril.
Voilà, le peu que tu gagnes, tu le perds aussitôt. Quoi.
Exactement. Ouais. Et puis bon, il y a des années comme cette année où on a de la paille qui est à 110, 120, 130 euros tonne. Quoi.
Ce qui fait cher.
Ah oui, à l'époque, les anciens, il a payé entre 50 et 70.
Ah oui, ah, ça a doublé quoi, quasiment.
Ben, cette année, elle est très très chère.
Ah d'accord.
Donc tous ces intrants, si on peut les limiter et rester autonome et produire tout ou presque sur l'exploitation, c'est de toute façon des économies.
D'accord. Et tu as fait vite fait allusion. Et toi, est-ce que tu vois un impact du changement climatique ou pas?
Quand on en parle avec. Si on s'en rend compte, quand on voit un peu avec les. On discutait avec les anciens ou autres, ils disaient. Moi, je me souviens quand on s'est installé, le propriétaire me disait à l'automne, pour louper les céréales, c'est quand même compliqué, quoi. Parce qu'il y avait une régularité, un peu plus de régularité par rapport à aujourd'hui dans tout ce qui est pluviométrie, en fait. Et là, cette année-là, maintenant, je ne dis pas que on loupe les céréales, mais à l'automne, c'est des fois compliqué de semer. Quoi. Ouais. En plus, ici, on a certaines terres qui sont un peu fortes. Donc, si on loupe le créneau où c'est le moment de semer, quand il a plu, c'est trop gras, on ne peut plus travailler. Quand c'est trop sec, c'est pareil. Ouais. Et c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Ouais. Là, cet hiver, alors je ne vais pas dire... C'est pas des bêtises, mais parce que j'ai pas tout en tête, mais entre novembre et février, on a eu la pluviométrie quasiment d'un an, quoi, voire un peu plus.
Ouais, comment s'adapter à ça
et
rapidement,
après,
quoi.
Voilà, après, on peut très bien avoir 2 mois de flotte où on en a besoin, et après, on peut aussi avoir 3 mois où il ne fait plus rien, où c'est tout sec. Et... Donc, du changement, il y en a, ouais. Du changement, il y en a.
Et puis, c'est pas facile d'anticiper ce que ça va donner, quoi.
Non, après on ne choisit pas la météo, on s'adapte.
Oui.
Heureusement qu'on ne choisit pas d'ailleurs.
C'est le propre du paysan. heureusement, parce que bientôt, déjà on est en train de tordre la nature suffisamment comme ça.
Ouais, après il faut s'adapter en essayant de la respecter le plus possible. Et puis après elle nous donne ce qu'elle a et on essaie de le prendre en faisant attention à ce qu'on fait.
Très bien, belle conclusion. Je te remercie Xavier
avec plaisir.
D'avoir pris tout ce temps. Tu remercieras Théo et Sandra pour moi.
Ça sera fait, pas de problème.
Voilà, très bien. C'est top.
Allez.
Merci beaucoup à Sandra, Xavier et Théo pour leur accueil et leur disponibilité. Toutes les émissions Paroles Rurales sont à disposition sur notre site internet radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.